Savez-vous où sont les livres ?
Il y a quelqu'un dans la bibliothèque.
Quartier Livre, Hélène Ichters, Nicolas Julliard.
Oh, ne vous pressez pas, j'ai la passion des livres.
Vous entrez dans la réserve naturelle des bouquins. Quartier Livre.
Bonjour et bienvenue dans Quartier Livre où en ce jour de Pâques, nous partons en Suisse, mais de façon insolite. Nous parlons de la Suisse de façon insolite. Notre invité est Guy Chevalet, auteur genevois, cofondateur du collectif Ajar et co-directeur des éditions Paulette. Bonjour Guy Chevalet.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Dans Quartier Livre. Et votre actualité aujourd'hui, donc, c'est la parution d'un dictionnaire insolite de la Suisse aux éditions Cosmopol, un petit ouvrage miscellané où se côtoient images de cartes postales et sujets qui fâchent, le seul dictionnaire où par exemple l'entrée Sugus est suivie de celle du suicide assisté. C'est suffisamment rare pour être souligné. À mes côtés pour cette émission, et c'est la première fois, il y a Format. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Format, c'est vous qui nous proposez votre carte blanche aujourd'hui. Un mot pour nous faire patienter ?
Je vous ai composé une petite chanson exprès.
Oh, tellement bien. C'est noté. À la réalisation de cette émission, il y a Thierry Châtel, à la mise en onde, Jean-Daniel Mottet, et à la sélection musicale, Sébastien Arnold. Quartier Livre, nous sommes ensemble pendant une heure.
Quartier Livre, Hélène Ichters.
Tartelette ronde au chocolat, le carac se présente de la façon suivante. Son fond en pâte brisée est rempli de ganache, recouvert d'une couche de fondant de couleur vert pastel. Un point en chocolat en orne le centre. On le repère immédiatement dans les étals des pâtisseries. Les grandes surfaces en proposent également, parfois même dans des versions de taille supérieure. Le carac est un petit mystère. Sa provenance reste non identifiée. Il aurait été produit au moins dès l'entre-deux-guerres, d'abord en tant que produit de luxe disponible dans les villes. L'origine de son nom n'est pas mieux documentée. Celui-ci pourrait dériver de carac, Q-U-E, mot rare désignant un chocolat de haute qualité. Le carac s'invite rarement sur la table en guise de dessert. À la fois croustillant et onctueux, hautement régressif, il se consomme plutôt au goûter ou en solitaire, tel un plaisir coupable.
Voilà la lecture par Nicolas Julliard de la page 35 de votre dictionnaire insolite de la Suisse, Guy Chevalet, avec ce mot carac coincé à la lettre C entre carte postale et cardinal. Vous êtes un adepte du carac ?
Je l'ai été à une époque, mais c'est vrai que si je remonte dans mes souvenirs d'enfance, quand on avait le droit de choisir des petites pièces, comme on dit en Suisse, avec ma sœur prenait le carac et je prenais le millefeuille.
Ah. Et vous, Format ?
Ah aussi, millefeuille plus que carac. Trop sucré, carac.
Ok, donc il y a team carac et team millefeuille. Donc vous vous êtes amusé dans ce bref ouvrage d'une 150aine de pages environ à faire se succéder des mots qui font sourire, qui rassemblent, et puis d'autres mots qui divisent. Par exemple, on trouve fondu entre fiscalité et forfait fiscal. Ou encore Auguste Piquard qui se retrouve coincé entre politique des petites pas et poire séchée. Ça a dû être un sacré casse-tête pour vous de faire ce dictionnaire.
Ça a commencé par une liste. Et puis de cette liste, un mot en appelle un autre, une idée en fait en appelle une autre. Et puis petit à petit on creuse, on se demande si on aura assez d'éléments pour aller jusqu'au bout de l'un, que peut-être il faut le mélanger avec une autre idée qu'on avait au départ. Donc il y a une sorte de rééquilibrage permanent qui se fait au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment ça devient assez net et le travail... est posé une fois pour toutes. Mais effectivement, un des plaisirs, c'était quand même qu'il y ait ce mélange des genres et puis qu'on puisse partir dans toutes les directions.
Mmh. Vous parlez de plaisir, il faut quand même qu'on s'amuse quand on rédige un dictionnaire insolite, d'autant plus insolite.
Ah oui, moi, mon but premier, c'était quand même de me divertir aussi avec ça. Je crois que c'est un peu une constante dans ce que je fais. C'est-à-dire que si moi, je m'ennuie en l'écrivant, je vois pas qui va se divertir en le lisant. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit intéressant à lire. Là, pour le coup, c'est de l'écriture non-fiction, mais aussi dans la fiction.
Oui, oui. Alors, c'est paru aux éditions Cosmopol, une maison d'édition française qui a commencé par publier des récits de voyages et puis des dictionnaires insolites de pays différents. Comment en êtes-vous venu à écrire celui de la Suisse ?
J'avais lu celui sur la Corée du Sud, mais vraiment par hasard en tombant dessus dans une librairie. Et puis quelques temps après, je suis retombé sur un dictionnaire de la même maison d'édition. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle en fait, est-ce qu'il existe celui de la Suisse ? Il n'existait pas, donc je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être le faire. Et j'ai pris contact avec la maison d'édition, on a fait un test et c'est parti comme ça. Et donc au final, c'est une sorte de commande.
Mais de votre initiative.
C'est moi qui me suis proposé, ouais. Et puis effectivement, c'est Cosmopol qui a eu la gentillesse d'accepter.
Alors, il y a des mots qu'on ne trouve qu'en Suisse, carac, hein, on vient de l'entendre, mais il y a aussi riz casimir, par exemple, qui est une invention de Betty Bossy. On la retrouve aussi, Betty Bossy, dans ce dictionnaire. Il y a les must, bien sûr, mais on trouve aussi des références beaucoup moins évidentes, par exemple Carla Del Ponte, H.R. Giger ou Exoplanète, puisque c'est la Suisse, un scientifique suisse, Michel Mayor, qui a découvert la première exoplanète. D'ailleurs, il a eu un prix Nobel grâce à ça. Mm-hmm. C'était important pour vous de faire exister des choses moins connues de la Suisse?
Je voulais pas prendre des noms qu'on allait trouver dans un dictionnaire forcément classique. Il y en a certains, effectivement, c'est le cas, probablement. Mais je trouvais que, quitte à faire un dictionnaire insolite, autant justement amener des personnalités qu'on connaissait un peu moins, en tout cas à l'étranger, mais peut-être aussi en Suisse, d'ailleurs, parce que souvent le nom est familier, mais on connaît pas toujours le parcours. Et puis, d'aller chercher une diversité dans les domaines où ces personnes étaient actives, de faire attention aussi qu'il y ait quand même pas mal de femmes, parce que je trouvais que c'était important. Donc, c'est pour ça que...
Ça a été remarqué.
Donc, c'est pour ça qu'il y a Carla Del Ponte et d'autres.
150 pages, c'est pas 1500 pages comme dans d'autres dictionnaires. Ça doit être un exercice sacrément difficile de savoir ce qu'on y met et ce qu'on n'y met pas surtout.
Oui, c'est un exercice de synthèse. Alors d'abord la recherche, mais effectivement une fois qu'on a toutes les informations, il faut trouver un axe puisque le dictionnaire est insolite par le choix des entrées mais aussi par le traitement qu'on fait du thème. Et donc il faut trouver un axe pour écrire et coordonner toutes les informations autour de cet axe. Ce qui fait qu'il y en a certaines que des fois on doit biffer, un peu avec un petit pincement au cœur, parce qu'on aurait bien aimé garder cette information, mais ça amène trop de développement,
qu'est-ce que vous avez biffé,
trop loin.
Ah, votre plus grand regret.
Je ne sais pas s'il y a des grands regrets comme ça, parce que ce à quoi je tenais vraiment, c'est rester, parce que forcément, je me suis arrangé pour pouvoir garder, mais il y a des fois où on se dit « Ah, ce serait tellement intéressant de donner plus de précision, mais en fin de compte, est-ce qu'on ne va pas perdre les lecteurs en cours de route, et puis est-ce que c'est si important que ça ?» C'est un des paris, puisque le dictionnaire doit s'adresser à beaucoup de publics différents.
Et surtout un public non suisse, j'imagine.
Les deux à la fois. Oui. C'était la complexité de l'exercice, c'était de faire en sorte que et un lectorat français qui ne connaît peut-être rien à la Suisse puisse entrer à l'intérieur des notices et puis que le lectorat suisse qui lui forcément est déjà familier puisse savoir un peu plus que ce qu'il avait déjà en venant. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup documenté, c'est pour ça qu'il y a des clins d'œil et puis j'espère qu'au final effectivement l'équilibre est fait entre les deux.
C'est un exercice très réussi parce que par exemple on apprend que Suissesse, la Suisse est le seul pays qui a un féminin dédié, qui n'est pas un adjectif pour les femmes de son pays. Et en l'occurrence, c'est le seul mot de la langue française qui contient autant de S au pluriel.
C'est vrai. Alors après, depuis, je me suis aperçu que si on est pour la féminisation de fonctions, assesseur, ça devient assesseuse. Ah. Et au pluriel, il y en a 6 aussi des S.
Très bien. Eh bien, c'est noté. Alors, c'est intéressant de voir que la Suisse arrive bien après des destinations très éloignées, comme l'Inde du Sud, le Guatemala ou la Californie, dans ces dictionnaires insolites. C'est pas forcément le premier adjectif qui vient à l'esprit quand on parle de la Suisse. Et la semaine dernière, Sophie Jossy, qui était invitée de Nicolas Julliard, se posait justement la question. Écoutez.
Alors peut-être que j'aurais envie de savoir, est-ce qu'en Suisse, véritablement, il y a des choses et des lieux insolites ?
Ça regorge de choses insolites. Du moment qu'on les cherche, on les trouve. Et en fait, plus on avance et plus on a des idées. Et en fait, c'était aussi une des difficultés du travail, c'était d'arrêter la liste à un moment donné parce que je savais que j'allais pas pouvoir faire plus qu'environ 160 entrées dans ce dictionnaire puisqu'ils ont toujours le même format. Donc, arrive un moment où il faut faire des choix. Et puis, avoir des notices aussi qui se renvoient quand même un peu les unes aux autres pour pouvoir se compléter et puis faire des renvois. Donc, on peut pas parler de tout. Mais c'est vrai que plus on tire sur le fil de la pelote et plus on s'aperçoit que la pelote est grosse.
La chose la plus insolite de Suisse, est-ce que ce serait peut-être ces contradictions qui se côtoient entre des choses très progressistes d'un côté et des choses très très folkloriques de l'autre, conservatrices? Est-ce que ça pourrait résider là-dedans?
Je pense que c'est un des traits marquants effectivement du pays avec le plurilinguisme en fait. Et ça, j'en discutais avec l'éditrice Vanessa Pignard, et effectivement, c'est une des données qui était, en tout cas pour elle, la plus marquante, c'était de se dire, il y a quand même des cultures très différentes, 3 langues, dans un pays qui est petit, en fait, géographiquement. Donc, comment on fait pour faire tenir tout ça ensemble? Et puis, finalement, c'était curieux aussi d'avoir cette réalité-là quand on vient d'un pays qui est beaucoup plus grand, mais qui a une unité culturelle et linguistique beaucoup plus forte pour des raisons historiques. Et la Suisse, c'est un melting pot et ça l'est autant sur le plan linguistique que politique, comme vous l'évoquiez.
Format, j'imagine que la valaisanne que vous êtes a pioché ici et là quelques entrées intéressantes dans ce dictionnaire.
Bah, c'est sûr, justement. Moi, j'ai adoré la définition de « accent suisse ».
Oui.
Qui est un mot qui forcément me tient très à cœur, puisqu'apparemment j'ai trop d'accents, mais j'adore tous les accents suisses, en fait je les trouve tous magnifiques et je trouve qu'on devrait être fiers de nos accents. Vous voulez que je vous en dise un petit bout ?
Avec plaisir.
De l'étranger, le fameux accent suisse francophone est perçu comme uniforme et surtout marqué par une élocution traînante. En Suisse, en revanche, on distingue plusieurs accents, souvent associés au canton d'origine, accent jurassien, valaisan, fribourgeois, etc. etc. Et des spécificités plus locales encore. La prononciation des voyelles ou le traitement de la lettre R figure parmi les principaux signes distinctifs. Tantôt discret en fond de gorge, tantôt sonore et vibrant. Voilà.
Comme dans ça roye.
Mais ouais, ça roye.
Absolument. Mais c'est vrai que de l'étranger, on a tendance à croire qu'il n'y a qu'un seul accent suisse. Donc ça, voilà. C'était l'occasion de faire des mises au point aussi sur certains petits sujets, comme sur celui-ci, ou bien sur le gruyère, puisque en France, on croit souvent que le gruyère a des trous. Donc je me suis dit, voilà, il faut quand même remettre l'église au milieu du village.
C'est juste.
Absolument. Alors, il y a un constat intéressant, et vous l'avez dit au début de cette émission, Guy Chevalet, c'est qu'il y a peu d'individus. Alors, bien sûr, il y a le général Guizan, il y a bien sûr Ulrich Zwingli, mais quand on a affaire à des personnes, et je vous remercie de ne pas avoir mis Roger Federer dedans, beaucoup de ces personnes sont des femmes, et des femmes qui mériteraient d'avoir leur nom de rue, mais qui ne l'ont pas forcément. Griselie Disreal, dont on parlait la semaine dernière dans cette émission, Quartier Livre, Meret Oppheimer, Ursula Andress, important, Dr No, James Bond, ou Anna Goldie, la dernière sorcière. Pour vous, c'était vraiment important de laisser la place aux femmes?
Oui, parce que je trouvais que justement tout à l'heure on évoquait les figures qui étaient dans le dictionnaire ou qui l'étaient pas. Alors pour certaines d'entre elles, en fait, elles sont vivantes, donc c'est vrai que souvent c'est une étape qui viendra peut-être plus tard, mais l'idée que de faire exister aussi cette visibilité-là, ça me tenait à cœur. C'est pour ça qu'il y a eu une entrée sur la grève des femmes aussi, et que je trouvais important de montrer que, en fait, la Suisse, effectivement, c'est peut-être ce pays qui est à la fois un mélange de conservatisme et de libéralisme, et puis d'identifier un peu ces figures modèles et puis de leur donner justement un peu de visibilité pour qu'on sache aussi ce qu'elles ont pu accomplir, tout domaine confondu. C'est pour ça qu'il y a de la politique, mais il y a de l'histoire, il y a aussi de l'art ou du sport, etc.
Vous imagineriez votre livre soumis comme lecture scolaire pour un peu avoir une éducation civique ou se dire quels sont les points sur lesquels peut-être on pourrait avancer, parce qu'il égratigne quand même pas mal de choses.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'est pas trop de gauche pour un programme scolaire? Non, je dis ça sur le ton de
la boutade. Il n'est pas très neutre, c'est vrai, votre dictionnaire, pour un dictionnaire de la Suisse.
Je crois qu'effectivement, mais c'était aussi le but, c'était convenu avec l'éditrice de dire, c'est un dictionnaire insolite, donc vous avez la liberté, effectivement, de choisir les entrées et le ton que vous voulez donner. Et puis ensuite, ça reste votre ouvrage, c'est pas un dictionnaire standard, c'est pas un dictionnaire académique. Donc même si toutes les informations doivent être vérifiées et correctes, ensuite, vous prenez l'axe que vous voulez. Donc forcément, c'est le reflet de qui je suis aussi.
Je vous propose une petite pause musicale, en suisse allemand, si ça vous va, avec le groupe Darx et son titre « Dudado ». Est-ce que vous savez, Guy Chevalet, ce que c'est « Dudado » ?
Nein.
C'est un rapport avec votre dictionnaire. C'est l'onomatopée que font les cartes postaux en suisse allemand.
Du dado, lock my de pâte dans la poche d'auto. Chatan und jetzt fühlt sie mich in mein Sandung. Du da du, öppten da noch Gang, sich so eng, flockt so ein Stück in der Bande rein. Und du meint, sie hängt nicht mehr nach die Schuhe, sie lässt noch immer ihre Trube, pflanzt noch immer ihre Rappe. Die Sonne gab den Kegge, die Stunde lang vor ein paar Rappen. Tag nicht einmal im Leben, nachts ist statisch gern der Beat, alles gibt hohe gute Beat.
Maintenant qu'on le sait, je parie qu'on va jamais l'oublier, du dado, donc le son des cartes postaux en suisse allemand, c'était Dars, groupe suisse, un petit peu de suisse allemand dans Quartier Libre, livre, puisqu'on parle de ce dictionnaire insolite de la Suisse avec vous, Guy Chevalet. Il y a peu de musique dans votre dictionnaire.
Oui, c'est vrai, mais oui. C'est parce que c'était un domaine difficile, parce que ben, forcément c'est très étanche entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, donc... trouver des références qui valaient et puis pouvoir en parler. Finalement, je me suis dit, bon, on ne peut pas aborder tous les domaines, donc c'est vrai qu'il y a effectivement peu de musique. Il y a le Ranz des Vaches.
Vous avez mis le Ranz des Vaches. Voilà. Pourtant, à la lettre Y, qui a peu, qui n'existe pas. D'ailleurs, vous auriez pu mettre juste Yellow, le duo des Suisses, Yellow.
Et il y a du... Est-ce qu'il y a finalement le Yodel, non?
Justement. Il y a le corps des Alpes, il me semble.
Il y a le corps des Alpes. Et le yodel, c'était une des entrées que j'avais envie de faire et que finalement j'ai enlevé.
Vous avez enlevé. Voilà, vous avez sacrifié le corps des Alpes.
C'est Quartier Libre.
Et puisqu'on parle musique, Priscilla Forma, vous êtes vous-même musicienne et quand vous avez accepté de vous prêter à l'exercice de la carte blanche de cette émission, eh bien, vous m'avez rapidement proposé de faire un morceau.
Oui, bah, c'est la manière donc ce que je préfère pour m'exprimer et pour raconter des histoires. Et moi, ce dictionnaire, ben, je l'ai adoré, il m'a bien inspiré. Et je me suis dit, ben, je vais un peu prendre ces clichés suisses, je vais regarder d'où ils viennent. Et puis, ben, il y en a qui, on les a pas inventés, quoi. Donc, j'ai fait une chanson très, très triste. Si vous voulez pleurer, ben, c'est maintenant. La fondue! Ouais. La fondue. Paraît qu'elle n'est pas suisse, la fondue. Alors que moi j'ai toujours cru, c'est pas nous qu'on l'a inventé. Je crois que j'ai le cœur brisé. C'est les Français et ça fait chier. Le cénovis. J'adore le cénovis. Mais on n'en est pas non plus à l'origine. Je pensais que c'était clairement un truc de bourbine. On l'a pas inventé pourtant. On a racheté la recette aux Allemands. C'est pas si con, hein. Mais c'est pas tout, on a des trucs à nous. Payer de balles un sac poubelle, des secrets bancaires à l'appel, des trains ponctuels. En fait non, ça c'est nous. Le thé froid de la Migros, Bastian Becker, DJ Bobo. Trouver trop cher les impôts en vaut, ça c'est nous, surtout moi. Les assurances maladies. être d'accord de se saigner pour les payer. En plus, on les a même pas inventés. Pourquoi ça augmente chaque année? Ça me fait mal à l'anus et ça vient des Prusses. La Suze! Je bois beaucoup trop de Suze à carnaval d'ailleurs. Même si j'en bois 200 litres par année, c'est quand même pas notre priorité. On croit que c'est du Jura bernois, mais apparemment pas. C'est de nouveau les Français. Toujours là, ceci. Mais c'est pas tout. On a des trucs à nous. Garder son fusil de l'armée, 13 ans d'allemand sans savoir parler, son jour de lessive imposé, ça c'est nous. À 22h, plus faire de bruit, assire l'autoroute jamais finie, de la compote sur les macaronis. Non, non, ça, c'est pas nous, Le génépi, la bricotine, biter diableret, la damascine, la marmotte, la penzeller, la cervoise, le jägermeister, la chartreuse, la cardinale, la felschlossen, la valaisanne, docteur Gaps et la muraille, ça c'est nous.
Bravo. Une première, une carte blanche chantée. Vous avez de la chance, Guichet.
Mais oui, j'ai eu l'impression d'une plongée dans les chansons de Boris Vian, quelque chose comme ça, avec
ah
ces
énumérations.
Il y a un frigidaire, une armoire à cuillère, tout ça.
C'est ça, un petit voyage comme ça.
Un petit voyage, ça vous a donné de l'inspiration pour peut-être un volume 2 de votre dictionnaire insolite.
En tout cas, il y a de quoi faire, mais apparemment, comme rien n'est à nous,
oui,
ça va être compliqué.
Si, le Jägermeister, apparemment, c'est un peu à nous.
Moi, je trouve que la lessive, c'est quelque chose qui aurait pu figurer dans votre dictionnaire.
C'est vrai, les buanderies communes, c'est, oui, c'est une spécificité.
C'est une spécificité.
Ouais, ouais. Mais est-ce qu'on en est fiers, vraiment, de ce... Pas, non, je le vis un peu mal, moi, ce jour de lessive imposé.
C'est possible.
D'ailleurs, c'était aujourd'hui, donc si on pouvait un peu se... Hein,
alors, on va rester ensemble. En tout cas, jusqu'à 17h, format, il va falloir que vous patientiez.
Quartier Livre.
Guy Chevalet, alors vous n'êtes pas qu'égratigneur de l'histoire suisse, vous êtes également auteur de romans. Vous avez publié en 2019 le roman De Fiel et de Fleurs, basé sur un fait divers de la Belle Époque. Et puis, il y a quelques mois, vous étiez en résidence littéraire à la Fondation Michelski à Montrichet pour écrire votre prochain roman, L'histoire d'un pasteur de la Chaux-de-Fonds, qui dans les années 20 devient missionnaire au Rwanda. Vous avez lu un extrait de ce roman en cours d'écriture, c'était dans l'émission Vertigo, au micro de Pauline Rappa. Écoutez.
Je pousse le corps souple du chat. Il se met à tourner en rond sous mon nez, sa queue touffue effleurant mon visage. Son nom complet est Igor de Kiev, détail qui plaît beaucoup aux invités. Cela figure sur son carnet de soins et pour un chat, c'est ce qui s'approche le plus d'un passeport. Je l'appelle Igor la plupart du temps, sauf quand je veux le taquiner, et je lui sers du kiki. Bref, il a plusieurs identités cet animal.
Voilà où vous en étiez au mois de septembre l'année dernière, 2021. Où en êtes-vous de ce prochain roman ?
Ouh là là. Non, mais ça, c'est le genre de projet qui avance, mais c'est un projet au long cours parce que ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais dessus en fait quand je suis allé en résidence et puis c'était un peu bloqué, donc le but de la résidence c'était de le débloquer. Mm-hmm. Donc ça s'est un peu débloqué, mais c'est vrai qu'il y a eu le dictionnaire, il y a eu aussi les projets que je mène avec Paulette éditrice. Donc ça fait beaucoup, on peut pas tout faire en même temps et puis il faut aussi voilà, de la place pour des propositions spontanées, des projets voilà plus ponctuels. Donc c'est quelque chose qui est là et qui est en train de s'installer. Donc pour ça cette résidence c'était quand même une excellente chose, mais il va falloir patienter encore un peu avant de savoir exactement ce qui arrive à Kiki.
Il y a un point commun entre vos travaux, c'est en fait cette passion que vous semblez avoir pour vous plonger dans les archives, dans peut-être le portrait de quelqu'un ou dans ce fait divers que vous relatez dans De Fiel et de Fleurs. Ça vous plaît, vous plongez dans peut-être le quotidien d'un couple comme dans ce roman ou bien le parcours de cette personne de la Chaux-de-Fonds, ce pasteur de la Chaux-de-Fonds qui part.
J'aime beaucoup les archives. Bon, ça vient aussi de la formation que j'ai faite en histoire de l'art, donc où j'ai toujours mieux aimé en fait aller défricher des archives, des fonds de plans, des choses comme ça, mais pas forcément lire des masses et des masses de livres sur, je sais pas, Rubens, pour avoir quelque chose à dire sur la touche de Rubens, alors qu'il y a déjà tellement qui a été dit. Moi, ça m'intéresse plus, effectivement, de rentrer d'une certaine façon dans le quotidien, en fait, dans ce qui a été le quotidien. Et je trouve que c'est assez intéressant pour ça, ce travail historique, d'aller, de mettre en perspective, en fait, ce qu'on voit et ce qu'on a oublié. Et puis, ce qu'on voit, ben, effectivement, ça peut être une œuvre d'art, par exemple. Mais autour de cette œuvre d'art, de son contexte, des voyages qu'elle a faites, il y a forcément toute une histoire. Et c'est beaucoup plus ça qui m'a intéressé dans mes études d'histoire de l'art. Et je pense que ça se traduit dans le travail que je fais parce que ce qui disparaît d'une façon générale, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est un grand questionnement qui est présent. Et comment est-ce qu'on en garde une trace? Et qu'est-ce qu'on en dit? Et puis, oui. C'est vraiment des questionnements qui sont, je pense, au cœur d'un peu toutes mes démarches d'une façon ou d'une autre.
En l'occurrence, par rapport à ce pasteur de la Chaux-de-Fonds, comment êtes-vous tombé sur son histoire ?
Alors, ce n'est pas un personnage qui a existé vraiment. À la base, c'était un personnage qui était satellitaire dans une fiction commune qu'on a créée avec le collectif Ajar, dont je faisais partie. Donc, et tout à coup, il y avait ce personnage, voilà, de pasteur qui serait parti au Rwanda dans les années 20. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible? À quelles conditions est-ce qu'on part? En plus, la Suisse, bah, évidemment, une partie de l'activité de missionnaire était liée aux colonies. Donc, dans un pays qui n'avait pas de colonies, est-ce qu'il y a vraiment eu des missionnaires et comment est-ce qu'ils se sont pris? Donc oui, il y a eu des missionnaires. Souvent, ils sont partis grâce, justement, au réseau qui existait dans les pays qui en avaient. Et donc, à partir de là, bah, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui le décide au départ et puis comment est-ce qu'il fait pour aller sur place. Mais après, un des grands questionnements, c'est faut-il décrire en fait ce qu'il fait? Parce que finalement, ce n'est pas une question qui appartient à un auteur suisse. Ça devrait être une question qui est traitée par les gens qui ont vécu dans les pays où ils sont allés.
Tout à fait. Dans cette même interview, vous parliez de votre travail d'éditeur chez Paulette Éditions. Donc vous avez repris en 2015 la direction avec Noémie Schaub. Et qu'il vous paraissait important, lorsqu'on écrit un livre, de le faire dans un esprit de durabilité. Qu'est-ce que c'est pour vous être un auteur durable ou un éditeur durable ?
Alors c'est plus facile, en tout cas, du point de vue de l'éditeur, parce que ça pose des questions très pratiques en termes de production. En fait, quel volume de livres on va imprimer, quel papier on va utiliser, voilà, comment est-ce qu'on va les diffuser, distribuer. En fait, quand on connaît bien la chaîne du livre, il y a plein d'enjeux qui se posent pour la durabilité de cette activité. Et d'une façon générale, on se pose pas beaucoup cette question dans la culture, parce qu'on a l'impression que c'est un peu immatériel, mais en réalité, il y a beaucoup de processus et beaucoup de métiers qui sont soumis à ces questionnements-là, que ce soit, je sais pas, la réutilisation des décors, par exemple, d'un théâtre. Est-ce qu'on va tout détruire ou est-ce qu'on va garder une partie? Mais comment est-ce qu'on fait pour stocker, réutiliser, mettre à disposition? Et à mon avis, le livre a des progrès à faire de ce côté-là, surtout en Suisse, parce que comme c'est cher d'imprimer en Suisse, par exemple, on va souvent imprimer à l'étranger. Donc Paulette a fait le pari d'imprimer exclusivement en Suisse. C'est pas la seule maison qui le fait, mais c'est un défi économique. Donc ça, c'est par exemple un aspect. Après, sur d'autres aspects, ça peut être plus ténu. Chez Paulette, il y a aussi une grande attention à l'œuvre en tant que telle, en fait. Qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Et puis, est-ce qu'elle s'inscrit quand même dans une visée un peu progressiste? En tout cas, est-ce qu'elle évite de reproduire des schémas d'oppression? Parce qu'on essaie quand même d'en sortir, si c'est possible. Donc, on est très attentif à ça dans le travail éditorial avec nos auteurices. Voilà, deux exemples parmi d'autres, mais je pense qu'on ne peut pas se passer de faire cette économie-là, parce que si on ne prend pas ce virage de nous-mêmes, en fait, un jour, le virage va arriver tout seul, et là, ça va faire très très mal.
Comprendre comment notre livre, notre œuvre sera perçue dans 10 ans, c'est un petit peu aussi ça, cette idée de durabilité, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, se poser ces questions-là. Au moment où on écrit l'œuvre, ça devrait faire partie du travail d'autorice, comme vous dites.
Je trouve, en tout cas, se demander qu'est-ce qu'elle traduit de l'époque à laquelle on l'écrit. Même si on écrit sur une autre époque, comme c'était le cas pour moi finalement avec De Fiel et De Fleur, de se dire que j'ai choisi ce sujet aussi parce qu'il mettait en scène d'une certaine façon des inégalités, mais qui sont encore présentes aujourd'hui. Et puis en parler alors qu'elles ont eu lieu, enfin qu'elles sont dans le cadre d'une affaire criminelle, mais il y a une centaine d'années, ça dit quelque chose aussi aujourd'hui. Et je trouve qu'on devrait faire effectivement ce petit examen de conscience dans son travail créatif.
Quartier livre, ce sont des mots sur des pages, c'est aussi parfois de la musique, pas que votre carte blanche, des mots en musique, de la musique suisse en l'occurrence. Dans cette émission, on n'a dit que de la musique suisse avec un artiste, Gérard Gray, des années 70, ça s'appelle Le Poisson Vert, c'est super original, j'espère que ça va vous plaire. Le Poisson Vert, c'était Gérard Gray à l'instant dans Quartier Livre. Nous parlons de votre dictionnaire insolite de la Suisse, Guy Chevalet. Et tout à l'heure, on parlait de votre amour pour aller farfouiller des archives. Qu'avez-vous appris de l'histoire suisse ou de la Suisse que vous ne saviez pas avant de faire ce dictionnaire ?
Ah, j'ai révisé mes bases, déjà. Je crois que, comme tout le monde, enfin, on connaît un peu quelques dates, quelques grandes lignes, mais dans les détails, par exemple... Savoir exactement ce qui s'était passé en 1291 ou en 1848 déjà. Enfin voilà, c'était pas 100% clair pour moi. Donc voilà, faire ce travail-là. Et en fait, il y a aussi beaucoup de travail invisible qui finit pas dans une notice parce que finalement, on a voulu clarifier pour être sûr que ce qu'on disait... Enfin ça, c'est un petit réflexe d'historien, mais ce qu'on disait à un moment était valable plus tard. Enfin, faire attention aux termes qui étaient utilisés. Donc si, j'ai beaucoup appris, enfin parce que j'ai cherché aussi, demandé autour de moi qui avait des idées sur la Suisse insolite et qu'est-ce que ça évoquait aux gens, regarder des petits reportages, je savais pas, j'avais déjà mangé des poires séchées, mais je savais pas par exemple qu'on le faisait encore dans certaines régions et puis que c'était encore un petit dessert sympa qui pouvait arriver sur notre table. Donc oui, c'était une grande expérience.
Oui, moi j'ai appris d'ailleurs, par exemple, qu'on a dû limiter la propagation d'une seule variété d'abricots en Valais.
Oui, format, c'est super intéressant. En plus, ça vient assez vite dans le dictionnaire. Je m'attendais à avoir abricotine, mais non, il y avait juste abricot.
Oui, oui. Mm-hmm. Absolument, avec ce fameux épisode en fait des Valaisans qui se rebellent contre l'importation de fruits.
Oui, c'est l'époque en fait où, jusqu'au XXe siècle, la Suisse a été un pays producteur de fruits et exportateur assez important. Et puis la concurrence internationale qui arrive avec la société de consommation fait que dans les années 50, il y a des régions pour qui ça, c'est un drame parce que potentiellement c'est pas seulement c'est son gagne-pain en fait qui disparaît aussi, pas seulement une culture et un savoir-faire. Et c'était le cas notamment pour les exploitations d'abricotiers en Valais.
Alors, grâce à vous, nous connaissons un petit peu mieux la Suisse, Guy Chevalet, mais grâce à notre QCM, Nous allons apprendre à mieux vous connaître, vous. C'est une tradition dans la Quartier Livre. On fait un petit questionnaire à choix multiples. Il n'y a pas de réponse fausse ni juste. C'est juste une manière de vous découvrir différemment. Est-ce que vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Alors, première question. Que faites-vous le 1er août en général, Guy Chevalet ? Petit A, vous passez votre journée au lit. Petit B, vous ne ratez sous aucun prétexte la classique saucisse de veau sur son assiette en carton, servie avec sa demi-tranche de pain et de la moutarde. Petit C, chaque année, c'est l'occasion pour vous de découvrir un lieu différent de Suisse. Ou petit D, vous n'y pensez pas parce que pour vous, le 1er août, c'est avant toute chose la journée internationale de la frite belge.
Alors, ce serait plutôt la A. En général, je ne fais pas grand-chose jusqu'au moment où mon compagnon insiste pour qu'on aille quand même voir un feu d'artifice ou quelque chose. Parce que, voilà, lui, ça l'intéresse un peu plus. Donc, mais moi, si je m'écoutais, je resterais un peu au fond du lit, je crois.
D'accord. Par réaction envers le 1er août ou bien simplement parce que c'est une journée d'été comme les autres ?
Alors, d'une façon générale, je suis un peu agoraphobe, si on peut dire, mais les événements de foule, c'est pas trop mon truc. Donc, au-delà même du symbole, c'est déjà le fait qu'il y ait plein de monde et plein de bruit.
D'accord, très bien. Deuxième question, format.
Le mot ou le nom que vous avez le plus hésité à mettre dans votre dictionnaire ? Petit A, Raël. Petit B, Rex, du nom de l'éplucheur. Petit C, Zouk. Ou petit D, les Young Guts.
Ah, j'aurais bien aimé mettre Zouk.
Ah, ouais, voilà. Mais... peut-être qu'on peut rappeler qui est Zouk pour peut-être les personnes qui connaissent moins cette personne.
C'était une humoriste incroyable avec un don d'observation et de mimique, en fait, qui rendait ses personnages d'une manière incroyable. Enfin, voilà, elle faisait une petite fille qui regarde des fourmis, une dame qui téléphone, et avec un si grand naturel que ça en devenait comique à force de la regarder. Ouais. Et c'est un personnage qui est un peu disparu comme ça. Oui. Après un immense succès, sans qu'on sache exactement ce qu'elle est devenue. Et donc, j'étais assez tenté de la mettre dans le dictionnaire. Mais voilà, il faut toujours faire des choix. On en revient toujours à ça.
Exactement. Mais volume 2, hein, elle était même dans un clip de Mylène Farmer.
Donc, oui. Et puis, elle était proche derrière ouais. Guibert, de plein de gens. Ouais.
Format, vous êtes déçu que Raël n'ait pas figuré.
Oui, moi, j'aurais trouvé super une définition après Raël.
Mais il paraît qu'on a des ennuis facilement avec Raël. Troisième question. Votre prochain exercice littéraire, à part votre roman sur ce pasteur de la Chaux-de-Fonds, sera petit A, écrire une chanson comme format, petit B, enregistrer un audiobook, petit C, publier un roman à l'eau de rose sous un pseudonyme, ou petit D, écrire des nouvelles de science-fiction, mais en Suisse, bien évidemment.
C'est marrant parce que chaque réponse fait un petit peu écho à des choses qui se sont passées d'une manière ou d'une autre. La chanson, il y en a eu une, avec Thierry Romanens, qui s'appelait Les Garçons. Et puis, mais sinon, non, ça me ferait rire d'écrire un roman à l'eau de rose sous pseudonyme, mais je peux pas revenir ici vous le présenter puisque ce sera sous pseudonyme.
Oui, mais on vous mettra un sac sur la tête.
Et je modifierai ma voix.
Vous modifierez, on a tout ce qu'il faut pour modifier votre voix, il n'y a aucun problème. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Grâce à ça, on vous connaît un petit peu mieux.
Pas de quartier. Quartier libre.
Et Pâques oblige, nous devions de rendre hommage dans cette émission à l'un des lapins les plus célèbres de la littérature. Écoutez.
Les fabuleuses histoires de Françoise Saga. Les fêtes de la chrétienté sont des moments très attendus dans les ventes de livres. Chaque année, les poches des éditeurs se remplissent comme par miracle à Noël grâce à des rééditions de classiques. Mais pas que ! Pâques est aussi une période de grand faste, surtout au rayon des livres pour enfants.
Pierre ! Où est Pierre ?
Pierre ?
Pierre !
Pierre Lapin ?
Ça commence à m'inquiéter.
Et dans le top 10 des livres les plus vendus cette année au Royaume-Uni, on retrouve, sans grand mystère, un grand classique, Les aventures de Pierre Lapin, le livre qui a fait la gloire de Béatrix Potter. Mais comment ce petit lapin bien habillé, qui tente de traverser le potager de Monsieur McGregor pour aller se régaler d'une carotte, parvient-il encore à éclipser la plupart de ses concurrents 120 ans après sa naissance ? Eh bien, peut-être parce que sa créatrice a travaillé férocement et qu'elle n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier.
Il doit s'en aller.
Il doit s'en aller.
En fait, Béatrix Potter avait bien plus qu'un don pour croquer les petits animaux désobéissants. Elle avait un intérêt intarissable pour toutes les sciences naturelles, à l'exception de l'astronomie. Avec son frère, elle observe longuement les créatures autour d'elle, notamment les petits animaux qui peuplent sa maison, des souris, chiens et chats, et aussi, tiens, des chauves-souris. Et puis bien sûr, son lapin,
tant elle détaille les aventures dans ses correspondances avec sa meilleure amie, lettres qui vont faire office de source principale pour sa future histoire.
On n'aurait jamais dû venir dans le jardin
sans risque. La vie est trop triste.
C'est incroyable. Y a rien qui te fait peur.
Si, y a un truc. Finir seul dans la marmite. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir.
Afin d'offrir un peu de relief à son personnage et en inventer les caractéristiques visuelles, Béatrix Potter va s'inspirer d'un autre lapin célèbre de la littérature, le Lièvre de Mars de Lewis Carroll. En fait, ce n'est pas tant l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles de Carroll qui la fascine que les célèbres illustrations qu'en a fait John Tenniel. Peut-être est-ce de là que lui est venue l'idée d'habiller son petit lapin, qui a l'air bien moins cinglé que son homologue amateur de thé. En tous les cas, l'idée était bonne et Potter vendit des tonnes de ses aventures lapinesques aux petits-enfants. Mais elle n'était pas qu'une bonne dessinatrice doublée d'une bonne autrice, elle était aussi une businesswoman au sens des affaires bien affûtées. Ainsi, bien avant Disney, Hasbro ou Mattel, Béatrix Potter pensa immédiatement à proposer des produits dérivés de son petit lapin, un jeu de plateau et une peluche. Figurez-vous d'ailleurs qu'en 1903, il s'agit du plus ancien jouet existant qui ait fait l'objet d'une licence. Très pratique pour engranger encore aujourd'hui des sommes extraordinaires alors que les histoires, elles, sont tombées dans le domaine public. Et encore, je ne vous ai pas tout dit de la vie de l'extraordinaire Béatrix Potter qui cumulait les jobs. En plus d'autrice pour enfants, elle était également Lady Farmer, oui, le féminin de Gentleman Farmer, et puis aussi une ardente collectionneuse de lichens et une formidable mycologue. Encore aujourd'hui, ses aquarelles de champignons font autorité.
Vous vous rappelez ce que papa nous disait tout le temps ?
N'allez jamais dans le jardin des MacGregor.
Vous imaginez ? Si à la place d'un lapin, Béatrix Potter avait choisi de raconter les aventures d'une morille avec un joli petit gilet bleu, si ça se trouve, ça se serait bien vendu. Bah ouais, les morilles c'est le printemps, ça se vend bien aussi à Pâques.
Guy Chevalet, dans votre dictionnaire insolite de la Suisse, il y a une entrée qui aurait bien plu à Béatrix Potter, c'est celle du droit des animaux, où l'on apprend, entre autres, qu'il est illégal depuis 2018 d'ébouillanter des homards ou de les transporter vivants sur de la glace.
Oui, c'est vrai. En Suisse, il y a une législation assez progressiste pour les droits des animaux. Mais on se souvient par exemple qu'il y avait eu tout ce débat sur le fait d'écorner ou non les vaches. Mmh. Est-ce qu'il fallait continuer à subventionner les exploitations qui les écornaient ou pas ? Ça n'empêche pas que les vaches arborent des cornes sur les publicités pour le lait, mais voilà. Donc oui, il y a plusieurs domaines comme ça. Il y a plus le droit de broyer des poussins vivants, ce qui paraît un peu fou à dire, mais c'était encore autorisé.
C'est important de le préciser un jour de Pâques quand même.
C'est vrai que c'est le jour pour le dire ou jamais, effectivement,
oui,
rappelons-le.
Oui. La Suisse est originale sur ce plan, elle est très britannique quelque part. On peut connaître l'attachement des Britanniques pour les animaux aussi, ou la défense des animaux.
J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté justement, grosses institutions caritatives. Alors on va être très libéral d'un côté, mais on peut aussi concéder un certain nombre de droit d'un autre côté. C'est un peu comme si ces deux choses allaient ensemble, j'ai l'impression.
Mmh. Je vous ai demandé, lorsque je vous ai appelé en amont de cette émission, de choisir quelle était l'entrée que vous préfériez dans votre dictionnaire. Est-ce que vous avez pu faire votre choix, Guy Chevalet ?
S'il ne faut en retenir qu'une, une qui me tient assez à cœur, c'est le sel.
Ouais.
Ce qui paraît peut-être un peu anecdotique, mais en fait le sel c'est très important dans la vie de tous les jours, enfin ça donne du goût à peu près à tout. Et puis ben le sel était une denrée très précieuse pendant très longtemps, c'est bien pour ça qu'il y avait des impôts sur le sel.
Le salaire
vient de là, et puis la Suisse, en fait, était dépendante du commerce du sel jusqu'au moment où elle a enfin trouvé ses propres gisements du côté de Bâle. Alors, il y avait la saline de Bée, mais qui était bien trop petite pour produire du sel pour toute la Suisse. Et c'est quand on a trouvé des gisements de sel à Bâle que la Suisse, en fait, a eu son propre sel et qu'elle a commencé à le commercialiser. Et puis encore aujourd'hui, c'est bien organisé. Il y a une entreprise qui appartient aux 26 cantons, Liechtenstein, et puis qui assure le fait qu'on a du sel de façon constante, à prix bas. Enfin, voilà, je trouve que ça montre aussi comment différentes entités s'organisent, se mettent d'accord, trouvent un système.
Mmh. Le sel qui se trouve dans votre livre entre secret bancaire et service militaire. Voilà.
C'est vrai, donc ça fait une réalité un peu plus anecdotique au milieu de deux gros blocs identitaires de la Suisse, mais j'aime bien ça.
Ça fait toute la saveur de votre livre, justement, comme on le disait en début d'émission, c'est de trouver entre deux choses très rigides, ce côté un petit peu plus léger.
Un grain de sel.
Je vous propose d'entendre quelques nouvelles du livre proposé par Nicolas Julliard.
Vous avez du courrier.
On n'écrit plus beaucoup de lettres manuscrites, et c'est dommage, parce que les lettres, bien plus que les emails, voyagent. et parfois même dans des endroits inattendus. Imaginez, vous êtes Jean-Jacques Rousseau.
Quoi ?
Ouais, allez, imaginez. Le 25 avril 1763, vous écrivez à votre ami Daniel Roguin, qui vit à Yverdon, une lettre dans laquelle vous lui racontez quelques anecdotes neuchâteloises. Comment imaginer que cette lettre de rien du tout se retrouve en possession d'un collectionneur brésilien 259 ans plus tard ? Et pourtant, c'est là que la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel a déniché cette lettre inédite qui vient compléter son fonds précieux Jean-Jacques Rousseau. Ah, Rousseau de Janeiro. En 1922, les écrivains anglo-saxons ont décidé de donner du boulot aux générations futures. Joyce, bien sûr, avec la publication de son roman Ulysse, un sacré morceau. Et puis également T.S. Eliot, poète anglo-américain dont le poème The Wasteland, la terre vaine en traduction, commence par ces mots.
April is the cruelest month.
Avril est le plus cruel des mois. À Londres, un festival s'est tenu cette semaine pour rendre hommage à ce grand poème, un des plus fameux de ce qu'on appelle le modernisme, et tenter aussi par différentes approches de le comprendre. Car oui, 2022, c'est aussi le centenaire de ce moment où la littérature est passée de « j'ai rien compris, c'est nul » à oh, « j'ai rien compris, c'est génial ». Enfin, le mot de la semaine, un mot pour mieux connaître l'univers du livre, c'est « jaquette ». Un mot qui désigne d'abord un vêtement. La jaquette, c'est une veste d'homme ou de femme serrée à la ceinture et descendant jusqu'au bas des cuisses. Rien à voir avec la jaquette suisse, sorte de tricot à longues manches, généralement fermé sur le torse par des boutons et à usage presque exclusif des théologiennes ou des vieux garçons. Encore un aspect insolite de notre pays et de notre langue, puisque les Français préfèrent appeler ce vêtement « cardigan » ou « gilet ». Bref, et le livre dans tout ça ? Ah bah, la jaquette d'un livre, c'est simplement ce petit vêtement qu'on lui met. Cette couverture souple qui vient redoubler la couverture rigide du livre, surtout dans l'édition anglo-saxonne ou allemande, et qui est souvent bien plus tape à l'œil que la reliure sobre qu'elle recouvre. C'est de la pudeur à l'envers, en quelque sorte. Déshabillez le livre et il vous cachera tout.
go, I won't ever cry. I won't let you go down, I won't ever let you go down.
War Drums, l'excellente Julia Dabala dans Quartier Livre à 16h54. Guy Chevalet, nous arrivons à la fin de cette émission. Et la semaine prochaine, Nicolas Julliard recevra l'auteur Jérôme Maizot pour son roman Malencontre, paru chez Zoé. C'est l'histoire de la disparition d'une femme, Rosalba, racontée à travers le regard d'un homme amoureux d'elle. C'est un antipolar qui célèbre l'imaginaire amoureux avec comme décor une casse de voiture. Quelles questions auriez-vous envie de poser à Jérôme Maizot ?
Alors, comme Jérôme Maizot s'est beaucoup intéressé à l'image que les auteurs, les autrices donnent d'eux-mêmes, en fait, j'avais assez envie de lui demander comment est-ce que lui se prépare à être Jérôme Maizot. Comment est-ce que Jérôme Maizot se prépare à être Jérôme Maizot, en fait, quand il se regarde dans le miroir avant de partir?
Eh bien, nous gardons précieusement de côté votre question et nous la soumettrons à Jérôme Maizot la semaine prochaine dans Quartier Livre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On rappelle que vous êtes l'auteur donc du Dictionnaire insolite de la Suisse aux éditions Cosmopole et que vous êtes également co-directeur de Paulette Éditrice avec la collection Gratacu comme actualité de cette maison d'édition. Deux livres vont sortir le mois prochain.
Absolument. Le premier, c'est « Quelques fleurs, some flowers » de Romy Kolombka. C'est un recueil de poésie. Et puis l'autre s'appelle « Parade » et il est signé par Julien Burry.
Rappelez-nous le principe de Gratacu.
Gratacu, c'est une collection dédiée aux écrits LGBTQIA+.
D'accord, chez Paulette Éditrice. Merci à vous, Format.
Avec plaisir,
d'avoir été
merci.
Là. Et merci aussi à Thierry Châtel pour la réalisation de cette émission. Merci à Jean-Daniel Mottet à la mise en onde de cette émission. Merci à Nicolas Julliard. Merci à Bastien Arnold pour la mise en onde. Merci à Sophie Gricuccio et à Cécile Claire pour la coordination de cette émission. Et on prend quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RTS
avec le parc aventure au signal de bougie et ses tyroliennes parcaventure.ch.
Dans la Riviera vaudoise, on roule toujours au pas dans les deux sens entre Claran et le centre-ville de Montreux. Prévoyez des retards d'un quart d'heure dans ce secteur. En Suisse alémanique, l'A2 Lucerne-Bâle est à nouveau ouverte entre Harrisdorf et Prateln en direction de Bâle. Toutefois, un important bouchon persiste sur ce tronçon. La circulation s'écoule sur une seule voie. Enfin, au Tessin, sur l'axe Chiasso-Lucerne, des colonnes de 6 km s'étendent entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gothard, ce qui représente une attente d'une heure et demie en direction de Lucerne. Pour rejoindre la Suisse romande, il est recommandé d'emprunter la route du col du Simplon ou l'axe du Grand Saint-Bernard. Pour tout complément d'information, le site rts.ch/trafic est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS. We'll be right back.
La Première vous offre l'heure.
Il est 17h sur La Première et juste après les infos, c'est La Belle Échappée.